questions, nos réponses.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio France Alzheimer. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vos questions, nos réponses. Alors n'hésitez pas à poser vos questions sur la page de la radio ou la page Facebook de l'association. Et on va parler d'un problème extrêmement important, justement la dénutrition chez les personnes malades. Plus de 2 millions de Français souffrent de dénutrition. Et donc parmi les malades d'Alzheimer et apparentés, eh bien, de nombreuses personnes sont concernées. La dénutrition fait partie d'ailleurs des premières choses à prendre en compte quand la maladie apparaît. Pour parler de cette thématique, nous sommes avec Caroline Riault, diététicienne, qui fait également partie du collectif de lutte contre la dénutrition. Elle est formatrice chez France Alzheimer et co-auteure du livre « Alzheimer et alimentation 2e édition, savoir s'adapter au quotidien », publié aux éditions presse HESP. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Alors, merci d'être avec nous. Première question avec cette nouvelle semaine de la dénutrition. Quel est le constat que l'on peut faire ? Est-ce que ça s'est amélioré au niveau de la prévention ou au contraire pas du tout ?
Je pense que la connaissance de la dénutrition s'améliore, mais que sur le terrain, les moyens et les protocoles ont du mal à se mettre en place et à être aussi efficients que ce qu'on voudrait.
Pour quelles raisons, selon vous ?
Sûrement parce que on parle beaucoup plus d'obésité que de dénutrition et qu'il y a beaucoup d'idées reçues et la peur de manger trop gras, trop salé, trop sucré, de manger trop tout court et qu'on s'inquiète moins de l'amaigrissement que de l'obésité.
Alors, si on se focus sur la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées, comment un malade tombe dans la dénutrition ? Quelles en sont les causes exactes ?
Alors déjà, ce qui est important à savoir, c'est que Alois Alzheimer, quand il a identifié ce qu'on pourrait appeler le premier tableau de la maladie, il avait déjà mis en évidence qu'un des premiers symptômes de la maladie, c'est l'amaigrissement. Or, les signes de la maladie évoluent aujourd'hui, on dit, sur plusieurs années, à peu près 10 ans. Et en fait, les troubles liés au poids et à l'alimentation arrivent progressivement au fil des années et de façon insidieuse. Donc déjà avec le vieillissement, on a tendance à manger moins au fil du temps, mais avec la maladie, on peut aussi oublier de sortir son plat du four, d'aller s'acheter du pain, de se resservir. Et puis, il peut y avoir aussi d'autres problématiques, un état bucco-dentaire défaillant, une masse musculaire qui diminue parce qu'on est de plus en plus sédentaire, parce qu'on ne trouve pas son chemin. Donc, il y a beaucoup de facteurs de risque, en fait.
Alors, pour tous les aidants qui nous écoutent, quels signes doivent alerter, justement, au sujet de la dénutrition d'un proche ?
Tout changement de comportement à table, un comportement plus sélectif, un homme qui mangeait volontiers du pain, une miche de pain ou une baguette par jour et puis qui n'en mange plus que la moitié. En fait, il faut s'alerter avant même de voir une perte de poids. C'est vraiment tout changement d'habitude alimentaire qui n'est pas compensé. Une personne qui veut plus manger de viande, mais qui ne compense pas en mangeant plus de fromage. Quelqu'un qui a un plus petit appétit et qui ne prend pas de goûter, par exemple.
Dans votre livre, vous parlez du refus alimentaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement ?
Alors, le refus alimentaire, c'est une étape particulière à un stade assez avancé de la maladie, de la personne qui, au fil des jours, perd l'envie de manger. En vieillissant, l'envie de manger va induire une anorexie. Moins je mange, moins j'ai envie de manger, moins j'aurai faim. Et si ça s'installe trop longtemps, c'est assez difficile de remonter la pente. Et le refus alimentaire, c'est assez troublant pour les aidants parce qu'on se rend compte qu'une personne qui a toujours été gourmande peut se retrouver progressivement à ne même plus éprouver de plaisir avec ses plats ou ses desserts préférés. L'alimentation devient secondaire, n'est plus une source de plaisir au quotidien.
Il y a aussi l'expression de la douleur qui empêche de manger, vous en parliez tout à l'heure, c'est l'hygiène bucco-dentaire. Est-ce qu'elle est souvent négligée ?
L'hygiène bucco-dentaire est vraiment, pour la population générale, une problématique très importante. D'abord parce qu'il y a la peur du dentiste, ensuite parce que les soins dentaires, ça coûte cher. Et puis, quand on tarde à bien entretenir sa bouche, on a encore plus peur de se faire soigner. Et puis quand on est malade et âgé, et ben, il faut se faire accompagner, il faut trouver un dentiste qui est à l'aise avec la maladie. Et puis il y a aussi tous les soins au quotidien, l'hygiène bucco-dentaire de base, se brosser les dents, voir si les médicaments n'ont pas d'effet secondaire sur la sécrétion de salive, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont la bouche très sèche, du coup, qui n'ont pas de plaisir en mangeant parce que elles ont l'impression de s'étouffer avec les aliments qu'elles peuvent pas humidifier normalement avec leur salive. Et donc, s'hydrater suffisamment et puis vérifier qu'on brosse les prothèses dentaires, qu'on propose à la personne au moins le soir de se brosser les dents et puis à chaque fin de repas de se rincer la bouche. Ce serait déjà formidable et c'est loin d'être le cas.
Donc peut-être un petit conseil à donner pour que les aidants s'en souviennent ou aient le réflexe de le faire. Qu'est-ce qu'il faudrait adopter comme habitude?
Je pense que déjà le confort buccal, ne pas souffrir, donc vérifier quand une personne refuse de manger, soit parce que c'est trop dur, trop fibreux et qu'elle est plus capable de mâcher, soit parce que pour lui faciliter le repas, on est passé déjà à des textures modifiées et qu'elle n'apprécie pas de manger, par exemple, mixé. C'est intéressant d'explorer la bouche. Parfois, c'est pas des abcès dentaires ou des choses dramatiques, hein, mais ça peut être des aphtes, des mycoses. Donc, ce confort dentaire, vérifier qu'on est bien dans sa bouche. Donc, moi, je pense que déjà, proposer un petit verre d'eau en apéritif et un petit verre d'eau en fin de repas pour rincer la bouche, c'est intéressant. Certains proposent quand vraiment se laver les dents est difficile, de proposer du jus d'ananas parce que visiblement, il y a une acidité et ça rafraîchit la laine. Donc trouver des petits moyens pour que on puisse enclencher le repas avec une bouche qui est prête à recevoir les aliments et à nous permettre de les apprécier.
Alors on parle dénutrition, est-ce que ça concerne aussi la sensation de soif?
La dénutrition et la déshydratation sont des risques nutritionnels liés à l'âge et à la maladie. Et ils sont étroitement liés parce que la dénutrition touche la masse musculaire. En fait, le processus de la dénutrition, c'est qu'on n'apporte pas assez d'énergie et de protéines pour le fonctionnement normal de l'organisme. Or, notre réserve de protéines, c'est la masse musculaire. Et quand on n'en apporte pas suffisamment dans l'alimentation, on va avoir tendance à perdre du muscle puisqu'on a besoin des protéines pour tout le métabolisme au quotidien. Et il se trouve que notre masse musculaire, c'est aussi une réserve d'eau. Donc quand on perd du muscle, on perd de l'eau et on augmente le risque de déshydratation qui est déjà là parce qu'en vieillissant, on a des réserves en eau qui sont amoindries et on a une sensation de soif qui diminue. Donc si on n'a pas eu l'habitude d'avoir des rituels au quotidien pour boire un thé l'après-midi, un café dans la matinée, on se retrouve avec des personnes qui ne boivent pas suffisamment et qui ne ressentent pas cette privation et qui disent toujours « vous inquiétez pas, si j'avais soif, je vous demanderai ». Mais ce qui nous inquiète, c'est qu'on sait que quand elles demandent à boire, c'est qu'elles sont déjà très déshydratées. Donc c'est à nous de stimuler l'envie et les occasions pour boire, évidemment pas que des boissons alcoolisées ou sucrées, mais il ne faut pas non plus les interdire complètement. On peut ritualiser des moments pour s'hydrater et des moments conviviaux qui ne sont pas non plus interdits s'ils sont bien planifiés et pas tous les jours à chaque repas.
Alors, quelles solutions existent pour prévenir de la dénutrition? Vous parlez par exemple dans votre livre d'autres façons de manger. C'est ça qu'il faut imaginer pour se dire qu'on peut éviter à son proche malade d'être dénutri?
Oui, alors le plus précieux, c'est de trouver tous les moyens, petits et grands moyens, pour maintenir l'appétit, l'envie de manger, l'envie de passer à table. Parce qu'avec la maladie, effectivement, il peut y avoir de la déambulation, il peut y avoir un désintérêt pour le repas, une difficulté à montrer les manques, par exemple des personnes qui ne savent plus quel couvert utiliser et qui préfèrent ne pas manger que d'attraper un aliment avec leurs mains, avec leurs doigts parce qu'elles ont déjà eu une ou deux réflexions. Donc ce qui est important, c'est de s'adapter et de trouver comment maintenir l'appétit et le facile à manger. Par exemple, couper les carottes en bâtonnets plutôt qu'en rondelles. On se rend compte que, par exemple, les pommes dauphines, les pommes noisettes sont souvent plus appréciées parce que faciles à attraper qu'un gratin dauphinois. Donc, c'est à nous d'observer et de faciliter le repas, aussi bien parfois dans la durée, dans le nombre de plats. Il y a des personnes qui vont mieux manger avec tout dans leur assiette et puis le dessert après que les plats les uns après les autres. C'est aussi de ne pas insister pour que les personnes mangent dans l'ordre, mangent exactement ce qu'on voudrait et pouvoir jouer sur les équivalences alimentaires. Une personne qui mange plus de légumes, si elle mange des fruits, elle aura son apport en fibres, en vitamines. Si elle mange moins de viande, mais qu'elle aime des tartines de rillettes de poisson, qu'on peut faire simplement avec du thon et du fromage frais, ça compensera. Donc il faut faire preuve d'adaptation et de souplesse, et encore une fois, des efforts qu'on demande aux aidants, mais qui sont payants si on arrive à ce que le repas reste un plaisir et pas une source de conflit.
Une autre question, cette fois qui concerne les aidants directement et leur santé, peuvent-ils être, par effet domino, hein, si j'ose dire, victimes eux-mêmes de dénutrition parce qu'en fait ils n'ont pas le temps de manger, parce qu'ils n'ont plus la tête à ça, parce qu'ils sont tellement occupés avec une charge mentale telle qu'ils en oublient de se nourrir?
Oui, bien sûr. Alors ça va dépendre de l'âge et de la situation des aidants, mais je dirais que le risque majeur pour les aidants, c'est la malnutrition. Aujourd'hui, on parle du triple fardeau de la malnutrition, c'est-à-dire qu'on peut avoir un aidant âgé qui est le conjoint d'une personne malade qui a les... de par son âge est à risque de dénutrition. On peut avoir des aidants plus jeunes qui risquent d'être tentés de faire le maximum pour l'aidant et qui peut-être sont encore actifs et sautent des repas, grignotent. Et là, on risque d'avoir le deuxième fardeau qui est la surnutrition, des personnes qui mangent beaucoup d'énergie mais pas suffisamment de fibres, de protéines, de vitamines, de minéraux qui peuvent prendre du poids. Et le troisième fardeau, c'est que aujourd'hui on parle d'obésité sarcopénique. C'est un mot compliqué, mais la sarcopénie, c'est la fonte musculaire. Et le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui on peut être dénutri en prenant du poids ou en étant en surpoids ou obèse. Donc ça, c'est important parce que ce soit pour l'aidant ou pour l'aider, c'est pas parce qu'on est en surpoids qu'on est à l'abri de la dénutrition. Parce que notre réserve fondamentale, c'est la masse musculaire. Et si on mange beaucoup d'énergie et pas assez de protéines, que notre surpoids ou l'obésité nous empêche d'être actifs au quotidien, ou une pathologie comme de l'arthrose, des douleurs à la marche ou des troubles de l'équilibre, eh ben on va pas entretenir sa masse musculaire en bougeant. Et si on mange pas suffisamment de protéines, on l'affaiblit encore plus. Donc on est dans la spirale de la dénutrition. Donc effectivement, les aidants peuvent être concernés par la dénutrition même en surpoids ou obèse, et peuvent prendre du poids et se dénutrir.
Et du coup, que leur conseiller pour qu'ils évitent de se mettre en danger aussi ?
C'est que pour être le pilier du quotidien et réussir à être aidant, il faut au préalable faire en sorte de respecter ses propres besoins, qui sont le sommeil, l'hydratation, l'alimentation, le répit, la détente. Alors c'est souvent plus facile à dire qu'à faire, mais c'est indispensable. C'est la fameuse devise qui veut voyager loin, ménage sa monture. Donc l'aidant doit faire en sorte de pouvoir prendre ses repas aussi, soigner ses repas autant qu'il va soigner les repas de l'aider. Parfois, c'est parce que l'aidant mange trop vite que c'est difficile de manger avec un lance-pierre, il y a des personnes qui ont l'estomac noué. Au contraire, parfois, c'est parce que le repas dure presque une heure et que l'aidant, à la fin du repas, n'a plus faim. Donc, c'est trouver des stratégies, manger son pain et son fromage avant le repas si on doit aider la personne malade à prendre son repas. C'est accepter de faire des pauses et des collations. Or, dans notre société, on a peur de grignoter entre les repas, mais parfois, l'assistance du repas, l'organisation du repas ne permet pas de prendre son repas complet pour l'aidant. Donc, c'est important pour lui de trouver comment manger les fruits en dehors du repas s'il ne les mange pas, par exemple, dans le cadre des repas.
Alors, dernière question, Caroline Rio. La Semaine nationale de la dénutrition, c'est du 18 au 25 novembre, c'est la 3e édition. Vous participez à son organisation au sein du collectif de lutte contre la dénutrition. Quelques mots sur cette semaine ?
Alors, on est très heureux parce que la Semaine de la dénutrition gagne de l'ampleur, alors surtout dans les établissements médico-sociaux. J'aurais tendance à souligner l'importance à domicile de prendre conscience du risque de dénutrition. On a un outil qui s'appelle Parade, qui est sur le site du collectif de la dénutrition et qui est un auto-questionnaire. Donc, on peut faire avec le couple aidant-aidé et qui permet d'évaluer son risque de dénutrition de façon très simple, parce que c'est plus facile dans les établissements d'être confronté à des professionnels qui peuvent faire un diagnostic. À domicile, on peut avoir l'impression que tout va bien et pas se rendre compte que le petit déjeuner est trop simple et que les repas au fil du temps se simplifient. Et donc c'est une bonne façon de faire le point et de savoir comment s'y prendre et puis d'engager le dialogue avec un médecin, l'infirmière, l'aide à domicile, tous les intervenants, avec le kiné si on a des séances, tous les intervenants qui viennent au foyer pour remettre l'alimentation au centre des préoccupations.
Eh bien, merci beaucoup Caroline de nous avoir accompagnés.
Merci à vous. Bonne journée et bonne semaine de la dénutrition.
Merci aussi à vous, chers auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez continuer de nous écouter, de nous écrire. Et vous pouvez également réécouter l'ensemble de nos émissions en podcast sur l'application mobile de la radio ou la page de la radio www.radiofrancealzheimer.org. Prenez soin de vous et à bientôt.
Vos questions, nos réponses.